histoire d'archives avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales des Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui accompagné d'une stagiaire aux archives départementales, Leslie Masson. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez nous parler des brigands.
Oui, en fait, je vais vous parler des brigands. Alors, j'avais un peu évoqué ce sujet lors de dernière rencontre. Alors, pourquoi parler des brigands? Je me rappelle très très bien le contexte. J'avais évoqué, en fait, le feuilleton qu'on avait réalisé pendant la période du confinement, donc en 2020. Et donc, je m'étais intéressé donc à ce sujet parce que c'était un sujet un peu nouveau, étudié il y a très longtemps par un abbé pour le département, repris par quelques historiens quand même très importants. Et puis, quand j'étais étudiant et enseignant, j'avais un directeur qui était un spécialiste donc des faits divers et entre autres des brigands, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Les brigands. Vous voyez donc les choses. Se recoupait en fait entre mon expérience et puis l'histoire du département et les archives, puisque quand on travaille sur un sujet, évidemment, il faut qu'on ait des documents sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, en l'occurrence, donc, j'avais effectivement fait la découverte d'un fonds fort important, qui n'avait jamais été étudié en réalité par les historiens. C'était en fait un fonds qui concernait une commission extraordinaire qui avait été mise en place pour lutter justement contre le brigandage et qui était qui portait le nom de son général qui commandait cette commission, qui était le général Ferrino, et qui avait des méthodes très expéditives, évidemment, pour régler ce problème. Alors ce problème, il faut le situer dans le temps, en fait, c'est un... Le brigandage, en fait, se développe pendant la Révolution française. Donc, alors au départ, les brigands, ce sont en fait essentiellement des contre-révolutionnaires, donc des royalistes, qui luttent contre la Révolution. Et puis va s'agréger à ce noyau dur du brigandage, on va dire, qui ressemble plus à du délictuel, vous voyez, que du politique. Enfin, il y a toujours un peu quand même cette dimension politique, à tel point que les historiens ne sont pas d'accord, en fait. Il y a un débat à ce sujet, savoir si effectivement ce sont vraiment des actions politiques ou des actions purement crapuleuses, de vol, d'assassinat, etc. Voilà, donc j'étais parti là-dessus, et puis j'ai redécouvert un crime incroyable, extraordinaire, qui s'est passé sur la commune de Riez, qui a provoqué la mort de 11 personnes, donc vraiment, en fait, toute une maisonnée, sauf un enfant de 3 ans qui a échappé à ce crime, et commis donc par des brigands. Ce qui est notable aussi dans ce crime de Riez, qui se passe en 1799, c'est que les coupables n'ont jamais été identifiés. Ce qui est rare, en fait, parce que dans la plupart des cas, quand il y a eu des faits de brigandage et quand les personnes ont été arrêtées, les autorités ont toujours réussi à faire le lien entre ces personnes, ces individus, ces brigands et les faits qu'on leur reprochait, grâce à des témoignages, grâce à d'autres éléments, essentiellement le témoignage, puisque les éléments, la police scientifique n'existe pas, donc c'est très compliqué évidemment de faire la preuve de quelque chose avec des éléments matériels, sauf si on retrouve évidemment des objets volés, etc. Et donc, pour ce crime, donc, on n'a jamais su vraiment qui étaient les assassins. Il est vraisemblable qu'en fait, que toute la maisonnée ait été tuée justement pour que les auteurs de ce brigandage ne soient pas identifiés. C'est-à-dire que ce qui était classique, d'ailleurs, souvent les brigands menaçaient ceux qu'ils attaquaient en disant « N'essayez pas de savoir qui je suis, sinon c'est votre vie, votre vie en dépend. » Voilà. Donc, j'étais parti sur ce crime atroce, l'un des crimes sans doute les plus atroces du département, commis par une bande. Alors on a un témoin, donc ce petit enfant de 3 ans, un peu plus de 3 ans, qui va donc raconter avec ses mots et son traumatisme et ce qu'il est capable d'interpréter, évidemment, puisqu'il ne comprend pas la scène, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc qui va me racontait finalement pas grand-chose. Hein, sur le... En revanche, les autorités de l'époque sont tout à fait capables d'analyser une scène de crime, hein, donc savoir à peu près comment ça s'est passé. Et donc, on a des éléments sur... ce qui s'est passé réellement, à quel moment ça s'est passé, tous les crimes qu'ont commis donc ces brigands, parce qu'en fait, ils ne se contentaient pas d'assassiner, hein, ils torturaient, ils violaient. Voilà, donc on a tous ces éléments, hein, qui sont groupés. C'est une maisonnée très importante, hein, donc, puisqu'il y a 11 personnes plus un enfant, donc 12 personnes qui y habitent. En fait, c'est un propriétaire qui habite à l'étage supérieur et ses fermiers, en fait, hein, qui habitent à l'étage inférieur avec, outre les fermiers, les valets, hein, les valets de ferme, etc. Voilà, donc il y a toute une maisonnée, hein, qui vit ensemble, qui est victime de ces brigands. Maison isolée, hein, évidemment, pour plus de facilité. Personne n'a rien entendu. Hein, c'est vraiment la maison isolée. Ce sont les voisins, en fait, qui le lendemain voient les bêtes errer, hein, dans la cour et autour, qui se disent il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il s'est passé quelque chose, donc qui vont voir, et comme ça, qui découvrent le crime. Donc, en fait, on n'entend rien, on ne voit rien. Personne n'a vu les brigands arriver. Ils sont sans doute nombreux, hein, puisqu'on n'attaque pas 12 personnes à 3. Donc, c'est une bande, hein, sans doute une quinzaine ou une vingtaine de brigands venus à cheval, puisqu'ils viennent en général d'assez loin. J'en parlerai après, hein, de savoir qui a commis probablement ce crime vont donc d'abord torturer les propriétaires, donc qui est un vieux couple. Hein, l'homme a près de 80 ans. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le but, c'est évidemment de cracher le morceau, hein, c'est-à-dire en fait où est le magot, quoi, où est l'argent, puisque le but c'est de trouver de l'argent. Voilà. Après, les brigands ne se contentent pas de l'argent, hein, ils veulent tout ce qui peut avoir un peu de valeur, et ils veulent même les vêtements, hein, puisqu'ils en ont besoin pour eux, hein, tout simplement. Parce qu'il faut aussi imaginer des gens qui vivent un peu de manière précaire, hein, dans les bois, qui se cachent, qui ont des difficultés évidemment lorsque l'hiver arrive, bon, qui arrivent à trouver quand même des complicités pour trouver des maisons, hein, c'est un réseau très très complexe, et puis qui vont torturer donc le couple, et puis ensuite vont assassiner à coups de gourdin, en fait, hein, la plupart des membres de cette famille. Alors, ils torturaient en brûlant, en piquant, hein, avec un couteau, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ils pendaient aussi les gens, hein, donc à la porte. Enfin, vous voyez, donc c'est toute la gamme des horreurs qu'on puisse imaginer. Hein, vous voyez, donc les temps étaient rudes, hein, pour ces paysans qui vivaient à la campagne et qui étaient vraiment la proie, hein, vraiment de ce brigandage, donc. Dont le paroxysme, en fait, se situe à la fin du directoire, donc dans les années 1798-99 et le début du consulat. Hein, donc ça va durer jusqu'aux années 1802-1803, quand le phénomène sera quasiment éradiqué, hein, par l'action des autorités. Alors, autorités militaires, autorités civiles, autorités judiciaires, tout le monde va s'y mettre. On va mettre le paquet, c'est le cas de le dire, et on va tous les tuer. Voilà, à peu près. Hein, c'est voilà que le brigand, en fait, il finit en général pendu, guillotiné, fusillé, ou alors dans des embuscades. Hein, enfin, voilà. Donc j'en parlerai après. Voilà, donc c'est ce crime donc, qui m'a fait déclencher cet intérêt pour ce sujet, puisqu'au fond, on parle toujours des grands crimes, vous savez, c'est un grand sujet, hein, dans les conversations et dans l'histoire, évidemment, parce que c'est très important, ça révèle évidemment... Vous savez, les faits divers sont intéressants, ne sont pas intéressants en tant que tels, évidemment, c'est qu'ils révèlent des fonctionnements sociaux, une situation générale, une situation sociale, une situation politique, une situation, etc., religieuse, parce qu'il y a aussi une dimension religieuse, hein, les royalistes aussi sont des défenseurs, hein, voilà. Donc c'est ça tout l'intérêt, en fait, hein. Et beaucoup moins, évidemment, le fait divers en lui-même, qui est tout à fait classique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Donc je suis parti de là-dessus, et je me suis rendu compte qu'en fait, donc, dans cette période de déliquescence des institutions, parce que c'est bien ça, en fait, hein, l'un des sujets, c'est qu'en fait, le brigandage se développe parce que, justement, alors il y a plusieurs raisons, évidemment, hein, mais l'une des raisons, c'est que les institutions ne jouent plus leur rôle, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir politique historique est un peu est très chahuté, hein, puisque la période du Directoire, on est après la grande période révolutionnaire, hein, de la Convention alors girondine, montagnarde, thermidorienne après la chute de Robespierre. On est dans cette période d'incertitude en fait, où les directeurs, hein, puisque c'est eux qui dirigent la France, sont ballottés entre, sont coincés entre une gauche extrême qui constitue des héritiers, hein, de cette révolution, de cette convention des montagnards, hein, les anciens montagnards, et puis d'une droite qui est celle en fait des royalistes, des catholiques, etc. Et donc ils essaient de trouver la voie entre les deux, et donc évidemment ils luttent contre les uns et contre les autres, voilà, mais sans trop, vous voyez, enfin c'est une situation très compliquée, voilà. Et puis il y a un autre élément qui est très important, c'est la guerre. En fait, la révolution est en guerre depuis 1792, hein, et ça va durer en fait en gros jusqu'en 1815, hein, jusqu'à la chute du premier empire, avec des périodes de paix de temps en temps, mais très très courtes. Donc il y a la guerre. La guerre mobilise beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, demande un gros effort, et la guerre demande aussi des hommes, des soldats. Et parmi les brigands, vous trouvez beaucoup de jeunes qui sont en fait des réfractaires, hein, qui ne veulent pas aller à la guerre, et donc qui vont se cacher dans les bois ou ailleurs, et qui vont rentrer dans les bandes de brigands. Donc il y a, et puis les déserteurs, hein, ceux qui étaient déjà dans l'armée, et qui ont choisi de quitter. Alors, il faut s'imaginer aussi les conditions de vie d'un militaire à l'époque. Hein. Elles sont très, très difficiles, très, très dures. Donc, qui ont choisi, donc, évidemment, de déserter, et qui constituent, et donc qui ont une expérience militaire. Ce qui est très important aussi pour les brigands. Et qui ont même, quelquefois, des tenues militaires. Ce qui fait que les populations pensent que ce sont des militaires, souvent. Hein. Ils voient une bande d'hommes à cheval avec des uniformes. Pour eux, ils ressemblent beaucoup à des militaires. Voilà. Donc, et évidemment, les brigands jouent là-dessus. Donc, vous voyez, c'est une période un peu complexe, un peu difficile, qui explique que... Et quand les institutions sous le consulat vont se remettre, vous voyez, en ordre de bataille, c'est le cas de dire, en ordre, eh bien, le brigandage va disparaître parce que... Elles vont jouer pleinement leur rôle. Hein, alors évidemment, c'est un rôle totalement répressif. Hein, y a pas de, à l'époque, on n'est pas dans une, on développe pas de politique, vous voyez, qui irait pour éviter. Vous voyez, je cherche le terme, mais on est plutôt, voilà, dans la répression, considérant d'ailleurs que les brigands sont des gens presque perdus, quoi, en fait. Hein, alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y a eu des amnisties quand même. Hein, on a voulu, mais c'est plutôt au début du phénomène, quand on considère encore que les brigands, ce sont des royalistes, vous voyez, qu'ils agissent pour des convictions, pour leurs convictions, et qu'on considère qu'après tout, il y a moyen sans doute de les récupérer, vous voyez. Hein, donc, voilà, donc, mais ça ne marche pas vraiment, parce qu'en fait, ceux qui ont été amnistiés, ils recommencent leur brigandage. Et donc, voilà. Donc on est vraiment dans un appareil répressif. Presque total, je le disais, les méthodes sont très, très expéditives. Il n'empêche quand même que le pouvoir judiciaire trouve que quand même on ne respecte pas trop l'esprit de la République, vous voyez. Et donc, au lieu de commissions purement militaires, on va créer des commissions mixtes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va mélanger des militaires et des juges. Et à ce moment-là, les peines vont être moins sévères, parce que l'alternative, autrement, c'était la libération ou la mort. Vous voyez, donc, voilà. Donc là, on va trouver des solutions moyennes, pas forcément des gens condamnés à mort, mais enfin, on va quand même beaucoup guillotiner, hein, à Digne, hein, entre autres, pour éradiquer ce problème. Alors, je disais, ce problème, c'est un phénomène de bande. Hein. Alors, il y a deux types de brigandage. Il y a le brigandage local, vous voyez, le voisin, vous voyez, le brigandage du voisin, hein, qui sait que... Hein, un tel a touché un peu d'argent parce qu'il a vendu des animaux à la foire. Et donc, qui va profiter, en fait, un effet d'aubaine, en fait, hein, qui vont profiter à deux ou trois, quatre, vous voyez, pour attaquer souvent une veuve, vous voyez, qui vit seule ou avec des enfants, donc très vulnérable. Donc ça, il y a cette forme de brigandage qui va intercepter deux, trois voyageurs, vous voyez, sur le chemin du coin. Voilà. Et c'est un phénomène qu'on retrouve partout, hein, vraiment, dans le département, hormis en... Il y en a un petit peu en Ubaye, mais très très peu. Et puis dans les zones où il y a des militaires, c'est quand même plus difficile d'être un brigand. Voilà. Donc il y a ce brigandage-là, puis il y a surtout le brigandage de bande. Et en particulier, une bande qui est très très célèbre, c'est la bande de Pourrières. Donc ce sont des Varois, en fait. Alors, le cœur de la bande, ce sont des Varois, mais qui, autour de cette bande, s'agrègent, en fait, des brigands basalpins, des brigands des Bouches-du-Rhône, des brigands de Vaucluse. Vous voyez, donc, voilà. Et c'est une bande qui va, alors qui est à géométrie variable, hein, ça dépend des moments, ils sont quelquefois une vingtaine, des fois une trentaine, mais enfin, c'est une très, très grosse bande, qui va donc... jouer un jeu du chat et la souris avec les autorités, avec les militaires qui sont à Trousse, les gendarmes, voilà, et qui va donc vraiment mettre à sac tous ces départements, en fait, hein, enfin une partie de ces départements, en visant évidemment des zones rurales essentiellement. Alors au départ, les Basalpes ne sont pas un département pour cette bande, n'est pas un département de travail. C'est plutôt un département où on vient se cacher, vous voyez. Donc au départ, c'est plutôt ça. Et puis au fur et à mesure, bah, ils vont aussi agir dans le département. Et à tel point d'ailleurs qu'ils vont même attaquer des endroits absolument qu'on n'imagine pas, en fait. Hein. Par exemple, ils vont mettre à sac Majastre et Le Poil. Hein, donc depuis le Var, traversant le Verdon, parce qu'ils ne peuvent pas passer par les ponts, parce que les ponts sont gardés, passant donc grâce à la complicité de basalpins qui les guident, hein, deux basalpins qui vont les guider, hein, parce qu'il faut aussi connaître le chemin, hein, évidemment. Et donc ils vont monter comme ça jusqu'à Majastre et Au Poil, et voler, tuer, violer les habitants de ces villages. Alors on a des témoignages très très précis là-dessus, parce qu'il y a eu, évidemment, à chaque fois, il y a des enquêtes. Hein, et puis, on a un document qui est très, très, qui est fort intéressant, qui est celui d'un juge d'instruction qui revient sur les lieux quelques temps après, hein, pour faire une enquête, et qui récupère, en fait, des témoignages qui avaient été déjà formulés au moment même, hein, enfin, peu après l'action des brigands, et qui raconte avec précision, vraiment, le fil de l'histoire. Il n'est pas d'ailleurs invraisemblable qu'en réalité, les brigands, avant d'attaquer un endroit, est envoyé en fait un émissaire, en fait, hein, pour contrôler, pour vérifier, pour voir s'il y a une garnison, pour voir, vous voyez, pour voir un peu la topographie des lieux, et puis même peut-être repérer les maisons intéressantes, vous voyez, celles où on doit attaquer en priorité parce que là, il y a de l'argent, vous voyez. Donc ça, c'est pas invraisemblable, hein, qu'il y ait... Hein, les brigands ne se lancent pas comme ça, vous voyez. C'est pas là une chevauchée. Voilà. Donc il y a un vrai travail, sans doute, d'information. Parce que, comme je disais, les brigands sont quand même chassés. Donc il faut qu'ils fassent très attention dans leur activité. Et puis, évidemment, ils tiennent à leur vie. Donc ils n'ont pas envie de se confronter aux militaires. En fait, ils essayent d'éviter les militaires. Quand ils attaquent les militaires, c'est pour les détrousser. Mais là, ils sont dans un rapport de force.
C'était dans quelles années, ça?
Alors là, on est dans les années 1798-1802. Vous voyez, à peu près, hein, dans les 4 ans. Je veux dire, fin directoire, début consulat. Hein, vraiment dans cette période. Voilà. Donc ce brigandage, pour Majastre, je disais, ils sont guidés par deux basalpins qui les conduisent donc sur les lieux. Ils font un gueuleton d'abord à Majastre, vont dévaliser Le Poil, puis ils reviennent à Majastre et dévalisent Majastre. Voilà. Donc y compris d'ailleurs l'endroit où ils ont mangé, hein, la taverne, hein, où ils vont voler tout ce qu'ils peuvent voler, ils violent les deux filles, enfin, etc. Et dans chaque village, ils tuent quelques personnes, voilà, hein, parce que ce sont des tueurs, en fait, hein, certains sont des tueurs. Il y a, vous savez, dans les bandes, il y a des tensions quand même, hein, à tel point d'ailleurs que quelquefois les brigands tuent eux-mêmes des brigands, oui, parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop violents, parce que en fait la violence leur fait courir un risque, évidemment, hein, quelquefois, oui, donc du coup ils s'en débarrassent, voilà. Donc voilà, donc il y a évidemment l'expression d'un sadisme etc., d'un rapport avec les femmes aussi, hein, qui sont évidemment pour certains des proies très très faciles. Donc on a plein d'exemples comme ça. Hein, il faut penser aussi quand même que les brigands, c'est un système en fait. Hein, ce n'est pas que 20 ou 30 personnes isolées qui vivent comme ça. Il y a toute une infrastructure hein, qui leur permet de vivre et qui leur permet aussi d'écouler le produit de leur vol. Vous avez en fait des bastides hein, qui sont complices des brigands, alors soit complices forcés, soit pour l'argent, hein, parce que les brigands payent, hein, évidemment. Hein, quand vous devez assurer votre sécurité, bah, il faut soit faire peur, soit donner un peu d'éléments d'argent. Donc on a tout un réseau comme ça de bastides qui leur sert de point d'appui, qui leur sert aussi pour de recel, hein, pour y cacher le produit de leur forfait. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a un brigand qui va donc, mais ça sera une autre histoire hein, que je raconterai un autre jour. Il y a un brigand qui va tout raconter et qui va décrire exactement où sont les caches. Et c'est absolument incroyable, extraordinaire. Enfin, voilà toute l'ingéniosité hein, qui est déployée pour cacher. Voilà, donc il y a tout ce réseau qui leur permet aussi d'aller vendre leurs marchandises jusque sur les marchés d'Aix et de Marseille. Vous voyez, parce qu'ils ne récoltent pas forcément de l'argent. Alors évidemment, ils prennent beaucoup d'argent. C'est leur but hein, quand même, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais il y a tout ce... Voilà. Ce réseau, il est aussi constitué de royalistes hein, qui leur permet hein, de se cacher. On dit même qu'il y a le propriétaire d'un château, les accueille régulièrement. Vous voyez, donc voilà, il y a tous ces éléments qui font qu'en fait, ce brigandage peut quand même perdurer dans le temps. Parce que sinon, ça serait impossible de vivre, évidemment, compte tenu des conditions. Il ne faut pas croire non plus que les brigands sont des hommes riches, en fait. Hein. Il y a des chefs. Et puis, il y a le brigand de base, hein, qui, quelquefois d'ailleurs, n'a pas de chaussures, vous voyez, qui est un peu un va-nu-pied, hein, qui est un pauvre, en fait, hein, au départ, et qui se retrouve là parce qu'il a fui, il n'a pas voulu aller à l'armée, hein, il n'a pas voulu aller combattre, etc., en Italie, par exemple. Voilà, donc, il ne faut pas non plus y penser qu'il y a une homogénéité. Hein, il y a vraiment des grands chefs hein, qui, eux, ont des contacts avec des gens très bien installés, hein, qui les aident. Et puis, il y a j'allais dire la piétaille, hein, les brigands ordinaires, etc. Et on retrouve dans vous voyez, je vais faire un parallèle un peu bizarre. Hier, on travaillait sur un crime avec l'archiviste. Vous voyez, je pars dans une autre histoire là. Avec l'archiviste de la ville de Manosque sur un crime qui a eu lieu en 1900. Hein, c'est l'ermite de Saint-Pancras, donc à Manosque. Et donc, parmi les personnes qui étaient accusées du crime, hein, qui d'ailleurs n'ont pas été condamnées, hein, il y a eu un non-lieu de prononcer. Il y avait des gens de la pègre, vraiment hein, des voyous de Marseille, vous voyez, la pègre la plus banale. Et parmi... Il y avait un des trois qui était accusé d'avoir commis ce crime. On pense qu'il avait tué trois personnes, vous voyez, par ailleurs, vous voyez. C'était vraiment un tueur, quoi. Enfin, voilà. Quelqu'un qui se battait au couteau, etc. Mais on n'a jamais pu le prouver. Voilà. Et donc, dans le brigandage, on a ça aussi, vous voyez. On a ce côté... à ces bandes, au départ royalistes, enfin avec des connotations royalistes, vont s'agréger justement des voyous, vous voyez, vraiment des voyous qui sont là pour la violence, pour l'argent, pour la vie, parce qu'il y a des femmes qui tuent et qui violent, mais il y a aussi des femmes qui vivent avec eux. En fait, il y a toujours hein, autour de ces milieux, et c'était le cas aussi pour nos trois accusés du crime de Saint-Pancras, il y a toujours des personnes qui autour profitent, vous voyez, vivent cette situation. Et j'étais frappé, moi, hier, en lisant le témoignage d'une des prostituées hein, qui avait connu un de ses accusés, de sa vie, en fait, sa vie réelle. En fait, c'est une vie absolument incroyable, quoi. C'est la vie dans les bas-fonds, on ne dort pas la nuit. On va boire, on va avoir un tel. Vous voyez, c'est une débauche. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, voilà, mais on a la même chose avec les brigands. Et d'ailleurs, il y a une historienne qui a écrit un très bel article sur la bande de pourrières et les femmes qui raconte, en fait, toutes ces histoires, toutes ces relations des femmes. Alors, les femmes, évidemment, victimes. Les femmes qui aussi profitent hein, de cette vie, et puis les femmes brigandes, car il y a aussi des femmes brigandes. J'en parlerai tout à l'heure pour une personnalité du département. Alors, le but, évidemment, c'est de voler et de piller. Hein, c'est le rôle d'un brigand. Enfin, voilà, hein, et puis, de ne pas se faire prendre et de ne pas se faire tuer, parce qu'ils sont évidemment chassés. Alors, je n'ai pas parlé de la répression. J'ai parlé de la partie judiciaire, en fait, hein, quand ils sont capturés. Mais... en réalité, on met beaucoup de moyens, on met des moyens militaires, parce qu'on a des soldats, hein, il y a les gardes nationales aussi, hein, pour que les villages puissent se protéger, hein, qui gardes nationales, hein, qui est un héritage direct des premiers temps de la Révolution. On a la gendarmerie, hein, qui les chasse aussi, et on a même une fausse bande de brigands qui est créée par le préfet du Var, qui va donc essayer de faire l'infiltration, en fait, hein, rentrer dans les milieux brigands, soit comme une bande, soit de manière individuelle. Et on a des tentatives d'insurrection. Et puis, il y a des brigands qu'on retourne. Hein, les autorités, quand ils capturent quelqu'un, ou offrent de l'argent, hein, pour que, justement, les brigands informent des lieux, des futurs méfaits, etc., pour pouvoir les capturer. Voilà, donc il y a plein de moyens qui sont mis en place, hein, qui sont mis en œuvre pour justement éradiquer ce phénomène de brigandage. C'est vraiment une lutte à mort. Hein, c'est une lutte à mort. Les brigands n'hésitent pas à tuer quand ils sont en difficulté. Et inversement, on tue les brigands, quelquefois même, quand on les capture. On fait croire qu'ils ont voulu s'évader. Et c'est l'occasion, évidemment, de les tuer. Quoi. Donc, voilà. On a vraiment... Vous voyez, c'est une histoire très, très sordide, en fait. Hein, voilà. Je disais... il y a donc... des brigands, là, on a donc des portraits de brigands. Alors, on en a un qui s'appelle Poulipastre, qui est un brigand qu'on pourrait penser un peu sympathique, mais qui est en réalité un sale type, qui est donc du Bas-Alpin, hein, qui est le beau pâtre, hein, donc le beau berger, qui lui fait du brigandage. Alors, il fait les deux. Il fait du brigandage occasionnel à quelques-uns, et puis il participe aussi au brigandage de bande, de celle de Pourrières. Donc, on le trouve dans les deux. On a un bel exemple. À un moment donné, ils vont attaquer, à Troyes, ils attaquent des bergers, hein, qui montent dans les montagnes pastorales, hein, qui viennent donc de la plaine de la Croix. Et puis finalement, ça se passe très mal pour eux. Hein, ils ne réussissent pas à dévaliser les bergers, et c'est même eux qui se retrouvent en difficulté. Voilà, on a des exemples comme ça. Et puis on sait que Poulipastre, par exemple, a participé à des actions extrêmement violentes de brigandage, par exemple au retour de la foire de Saint-Maximin, quand les gens reviennent avec leurs marchandises ou avec de l'argent parce qu'ils ont vendu leurs produits, eh bien, ils les arrêtent sur le chemin, hein, sur le grand chemin. Ils en tuent un pour l'exemple. Et puis après, à chaque fois qu'ils en arrêtent un, ils lui montrent, vous voyez, si vous ne coopérez pas, vous allez terminer comme ça. Alors, il y a, je disais, ces brigands sont aussi des gens du coin. Et donc, quelquefois, ils sont reconnus par certaines personnes, hein, mais qui ne les dénoncent pas. Dans l'exemple que je vous donne, là, de l'attaque de ces gens qui remontent de la foire, il y en a un que les brigands connaissent. Alors, ils vont le dévaliser pour pas qu'il soit identifié comme complice des brigands. Et puis ensuite, après, ils vont tout le restituer parce qu'en fait, il fait partie du même... Alors, il n'est pas brigand lui-même, hein, oui, mais il fait partie du même faisceau, sans doute de ceux qui font du recel ou qui participent à la vente des marchandises. Vous voyez, donc, il y a des complicités quand même. Hein. Le sous-préfet de Fort-Calquier est toujours étonné quand il fait des grandes battues pour chasser des brigands de ne pas avoir de résultats. Le préfet lui explique qu'en fait, c'est normal. En fait, son environnement renseigne les brigands, vous voyez, et y compris ses proches collaborateurs. Donc, vous voyez, il y a les brigands, évidemment, corrompent. Hein, ils utilisent la corruption avec l'argent. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand ils se font arrêter, ils réussissent souvent à s'évader. Hein, vous avez un exemple à Digne, où tout le monde s'évade, sauf un qui a sans doute refusé de partir, vous voyez, un des prisonniers, mais tous les autres prisonniers s'évadent, y compris des brigands. Vous voyez, parce qu'ils arrivent à corrompre ou à faire pression sur ceux qui les gardent. Hein. Ce n'est pas forcément une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de violence. Voilà. Donc il y a toutes ces histoires-là hein, qui se mélangent. Donc le brigandage est à la fois un phénomène de bande, mais c'est aussi un phénomène individuel qui nous permet de suivre en fait des itinéraires très singuliers. Je vous parlerai donc après notre pause musicale de notre brigande, hein, notre beau portrait de brigande, celle qu'on appelait la belle marchande.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, c'était Yann Tiersen et on reprend donc avec nos brigands et Jean-Christophe Labadie dans Histoire d'archives.
Oui, alors donc j'évoquais juste avant notre pause donc, le portrait, le visage de la belle marchande, hein, donc l'une des brigandes qui elle était particulièrement active, qui a donné d'ailleurs, j'en profite pour en parler, qui a permis à Jean Giono d'en dresser un portrait, puisque Jean Giono s'est intéressé aussi au phénomène du brigandage. Il avait fait acheter par ses relations une publication réalisée peu après un grand procès de brigands dans le Var. Mais c'est, comme je l'expliquais auparavant, ces brigands du Var, ce sont les mêmes hein, qui ont aussi agi, en grande partie agi dans le département. Il n'y a pas qu'eux, évidemment, comme brigands. Et donc, qui a écrit donc, quelques nouvelles autour de ces figures de brigandes et de brigands. Alors, qui est cette belle marchande? En fait, elle s'appelle en réalité Marie Jourdan, tout à fait, un nom tout à fait banal. Elle a épousé un nommé Avène, qui est d'Esparon de Verdon, qui tient une auberge, une des trois auberges d'Esparon, et qui fait aussi d'ailleurs commerce de denrées. Hein, vous savez, on ne se contentait pas seulement d'une seule activité. Alors, elle a été condamnée à mort, le premier complémentaire en 11, donc le 18 septembre 1103, donc c'est vraiment sur la fin de l'histoire du brigandage. Et elle a été exécutée en place publique à Digne, 4 jours plus tard, le 5 complémentaire en 11, à 11h du matin, alors qu'elle était âgée de 47 ans. Alors c'est une femme qui est issue d'un milieu modeste, de travailleurs de près de d'Espinouse, en fait, le Chaffaut Saint-Jourson, aujourd'hui, voilà, et qui était née donc en 1756, qui était d'une famille plus ou moins d'illettrés, vous voyez, donc de très... et qui a donc a épousé cet homme. Alors, on ne connaît pas les circonstances, pourquoi, comment elle avait rencontré, parce qu'elle n'était pas d'Esparon, comment elle avait rencontré cet homme. Et ce couple a eu des filles, deux filles, dont d'ailleurs les brigands, qui recevaient d'ailleurs des brigands, des cadeaux, puisque, je l'expliquais tout à l'heure, en fait, elle a abrité les brigands. Alors, tout ça est très connu. On a son acte de décès qu'on trouve dans les registres. Ce qui est intéressant, c'est que Marie, en fait, en l'occurrence, est un petit peu inquiétée par les autorités. Donc, elle va quitter Esparon et venir se réfugier dans son village de naissance pour se faire un petit peu oublier. Parce qu'en fait, les témoins commencent à parler d'elle, puisque quand ils sont interrogés, parce qu'il y a beaucoup d'interrogatoires de témoins quand même, puisqu'il y a beaucoup de victimes, donc forcément beaucoup de témoins, et de victimes qui témoignent. Tout doucement, on voit apparaître cette figure qui se révèle au fil des témoignages. Et donc, évidemment, la justice va commencer à s'intéresser à elle. Et c'est là qu'elle voit que la pression commence un peu à monter. Donc, elle va se mettre au vert, c'est le cas de le dire, essayer de se faire oublier. En réalité, elle va être... il va avoir un mandat d'arrêt qui va être délivré contre elle, en 1802. Et elle va être incarcérée... avant d'être jugée, d'ailleurs, parce qu'elle circulait sans passeport, parce qu'il fallait, à l'époque, un passeport pour simplement changer de canton. Vous voyez, on surveillait vraiment les mouvements de population. Voilà. Elle va revenir... elle va être libérée, finalement, pour une affaire mineure, en fait. Et puis, elle va être vraiment reprise pour ces histoires de brigands. Alors, on a un témoignage d'un de ces... d'un jeune garçon qui est un peu l'homme à tout faire, le garçon à tout faire, il a une quinzaine d'années, et qui est un enfant abandonné, qui a été donc récupéré, qui dépend des hospices, et qui va donc raconter ce qu'il fait. Alors, il le dit avec ses mots, c'est assez un peu naïvement. Et en fait, il joue quoi? Il fait un peu un rôle de... Il surveille. On le met, puisque les brigands, évidemment, quand ils viennent à Esparon de Verdon, puisque certains résident dans la taverne que tient Marie Jourdan et son mari. Donc, il fait aussi les petites courses pour les brigands. Vous voyez, il va les chercher, il va les renseigner, etc. Donc il va raconter tout ça. Tout doucement, on va s'apercevoir que, en fait, Marie Jourdan est un personnage clé dans le brigandage. 35 témoins vont l'accabler. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. 35 témoins qui vont évoquer cette figure, en fait, qui terrorise le village, en réalité, puisqu'elle a l'oreille des brigands. Et donc, on dit même... qu'elle avait la volonté de faire assassiner le maire d'Esparon de Verdon. Vous voyez, on parle de la violence contre les élus. À l'époque, elle est très, très réelle, puisque c'est la République. Les élus représentent la République. Et les brigands, comme je le disais, sont des anti-républicains. S'ils ne sont pas forcément tous des royalistes, ils sont de toute façon tous anti-républicains. Voilà. Mais ça ne va pas aboutir. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est un échange. Vous assassinez le maire pour moi, et puis moi, je vous procurerai. Voilà. Donc, voilà. Mais ça ne se fait pas parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de le faire, en fait, en réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'elle ? Alors, on dit d'abord des choses tout à fait classiques sur les femmes qui sont autour des brigands. On dit d'abord qu'elle leur permet de trouver des filles, en fait, des jeunes filles, soit des jeunes filles volontaires, soit des jeunes filles forcées, en leur désignant les lieux où elles habitent, etc. Donc ça, c'est la première chose. On leur dit aussi, on lui reproche aussi de faire du recel. Bon, ça, c'est tout à fait classique. Les brigands vivent chez elle. Et donc, voilà. Mais c'est pas tout. En fait, on leur reproche aussi d'informer les brigands sur les passagers, les voyageurs, les marchands, tous ceux qui passent par Esparon et qui sont susceptibles de les intéresser pour les voler. Donc, elle fait aussi du renseignement. Voilà. Elle raconte. Alors évidemment, elle dit que quand les brigands venaient chez elle, elle ne savait pas que c'était des brigands, ce qui est évidemment totalement une défense totalement impossible, parce qu'en fait, ils sont armés, ils restent très longtemps, et on les décrit même jouant aux boules, vous voyez, sur la place publique. Enfin voilà. Donc en fait, ils sont installés à Esparon-de-Verdon. Pour eux, c'est un point de chute. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont une infrastructure qui existe. Et puis là, ils ont trouvé le bon endroit qui est à cheval entre les Basalpes, vous voyez, et le Var, et qui leur permet, parce que c'est très important pour eux, pour échapper aux autorités, de passer d'un département à l'autre. Vous voyez, c'est une méthode aussi. Comme on pourrait changer aujourd'hui de pays, vous voyez, pour s'éviter certaines poursuites. Voilà. Eh bien, on fait exactement la même chose. Voilà. Et donc, elle dit, effectivement, qu'ils venaient armée, qu'elle était en fait forcée, qu'elle était forcée de leur donner à boire et à manger, puisque c'était son activité. Et donc, elle n'osait refuser. Et elle craignait pour ses filles, évidemment, parce qu'elle a deux filles, qui sont très jeunes, qui ont 15 et 16 ans. Voilà. Alors, elle dit, par exemple, « Je les ai reçus par force, m'ayant d'abord menacé que si je ne leur donnais à boire et à manger, ils violeraient ma fille en ma présence et m'assassineraient. Et dès lors, je leur dis de ne me faire aucun mal, que j'étais disposé à leur donner ma chemise s'il exigeait. » Vous voyez, donc, elle va dire, en fait, en gros, qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est une victime, en fait, des brigands comme les autres. Voilà. Bon, il y a quand même un petit problème, parce que, en réalité, il s'avère qu'en fait, elle est sans doute la maîtresse d'un des chefs brigands, qui est Félix, qui est un homme très grand, plus d'un mètre 80, qui porte beau, vous voyez, qui est un boulanger, en fait, du Var, qui est donc un chef brigand, quelqu'un de particulièrement féroce, habillé comme un hussard, vous voyez, avec une grande plume sur son chapeau, voilà, vraiment un bel homme, et puis un chef. Donc, on n'a pas de témoignage direct, mais on voit bien qu'il y a on sent bien qu'il y a quelque chose, qui serait de cet ordre, voilà. Et puis surtout, elle participe aux méfaits des brigands, elle se déguise en homme, mais c'est pas la seule, c'est pas le seul cas. Elle se déguise en homme et elle va participer à des expéditions brigandes, entre autres à Gréoux, mais ailleurs aussi. Et donc évidemment, là, il n'y a plus de doute. Non seulement elle est complice, mais elle est acteur du brigandage. Voilà. Et donc, évidemment, tout ça ne va pas résister. Elle est accablée, évidemment, par ce brigand qui va tout raconter, qui va tout donner, qui va délivrer beaucoup d'informations aux autorités, qui va, en fait, tout à fait l'accabler en disant qu'effectivement, qu'elle est brigande elle-même, qu'elle profite, qu'elle fait du recel, mais qu'elle participe aussi à la revente des objets volés, des bijoux. Les brigands, à un moment donné, vont attaquer un bijoutier qui vient à la foire de Digne. Ils vont tout lui voler. Un nombre incroyable de bijoux. Vous voyez, un butin extraordinaire dont elle va bénéficier directement, puisqu'on va, les brigands vont lui en faire cadeau de certaines pièces. Ses filles aussi, vous voyez. Voilà. Donc, elle est vraiment complice. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'elle est jugée, et 4 jours après, elle est exécutée sur la place publique à Digne, guillotiné en l'occurrence. Hein, et il y a, je vais terminer là-dessus, hein, donc, notre fameux Jean-Pierre Ponce, hein, qui est celui qui l'accable, le brigand repenti, va dire en fait d'elle, c'était un diable. Voilà pour aujourd'hui, pour ces histoires de brigands, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Oh, merci Jean-Christophe Labadie. On fait une pause musicale, ouais. Et puis donc on enchaînera avec Leslie Masson. Voilà, après les Beatles, donc on retourne dans Histoire d'archives et on va voir donc les animations prévues ou les conférences avec Histoire d'archives pour aujourd'hui avec Leslie Masson.
Bonjour, voilà, alors je vous présente le programme L'actualité des archives. Vous aurez ce soir une conférence, une lecture d'archives, plus précisément sur la vie rurale au Castellet dans les Basses-Alpes du 18e au 20e siècle. Cette lecture d'archives sera présentée par les comédiens de la Mobile Compagnie en partenariat avec l'association Castellum au Castellet d'Oraison à la salle polyvalente à 18h30. Vous pourrez aussi assister à une conférence la semaine prochaine, donc le jeudi 15 juin à 18h aux archives départementales sur la thématique de vivre à Digne au 1er et 3e siècle qui sera présentée par Jenny Selec, archéologue du service départemental d'archéologie. Pour ces deux actualités, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. également à venir organisée par les archives départementales à la cathédrale Saint-Jérôme, l'inauguration de l'exposition Trésor d'orfèvrerie le mercredi 5 juillet à 17h30 directement à la cathédrale.
Merci. Ben, vous allez nous parler de votre stage aux archives départementales puisque ça fait plusieurs semaines ?
Une semaine.
Voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher là, avec
Alors,
ce stage ?
Je suis passionnée de patrimoine et par ailleurs assistante de conservation à la ville de Sisteron pour l'organisation et la gestion d'événements patrimoniaux et la gestion des musées du patrimoine. Je m'intéressais à titre personnel à la généalogie, ce qui m'a poussée en fait à essayer de développer des compétences dans ce domaine. Pour ce faire, j'ai suivi donc un diplôme universitaire et une formation dispensée par l'Université de Nîmes qui s'intitule « Généalogie et histoire des familles ». Et c'est dans ce cadre que j'effectue actuellement un stage aux archives départementales. Donc l'intérêt de ce stage, c'est de découvrir l'organisation propre des archives, les différents services qui composent les archives départementales, des archives qui ont une vocation à diffuser le patrimoine via les archives, comprendre comment ces dépôts rentrent dans les fonds des archives départementales, comment ils s'organisent, comment on les conserve, comment on les classe. Donc je découvre depuis une semaine tout un tas de métiers autour des archives, hein, puisqu'il y a la valorisation des archives, l'intérêt, comme le fait M. Labadie, qu'on porte à l'information que l'on retrouve dans les différentes sources, mais aussi des personnes qui restaurent et qui préservent les différents documents, qui les conditionnent, des personnes qui travaillent pour mettre à disposition du plus grand nombre tous ces documents, en tout cas ceux qui sont consultables, communicables par rapport à la loi. Le soutien donc aux personnes qui font des recherches. Moi, pour ma part, je travaille aussi dans le cadre de mon diplôme sur un mémoire. Donc ce mémoire, il consiste en fait à faire une recherche généalogique pour un couple qui se serait marié entre 1832 et 1843, qu'on avait libre choix de choisir donc. Et de choisir la commune également. Donc j'ai pour m'avoir choisi un couple qui s'était marié à Sisteron, dont la vie me semblait inspirante au vu de l'acte de mariage. Et je mène donc une enquête généalogique pour retrouver les ascendants et les descendants de ce couple et éventuellement les petits faits particuliers de leur vie ou des collatéraux qui auraient pu avoir... une vie ou participer à un événement particulier dans le courant de leur famille. Donc là, on est plus sur la partie, comme parlait M. Labadie tout à l'heure, des brigands et de cette dame, donc essayer de comprendre comment une personne, à différentes activités et par quelles sources on peut essayer de comprendre ce que faisait une personne, comment elle interagissait avec d'autres personnes, si c'était quelqu'un d'important ou qui avait une vie tout à fait normale. Dans ce cas, on essaye plutôt d'approfondir le contexte au moment où la personne a vécu et de retranscrire. C'est un peu un devoir de mémoire de parler de ce que nos ancêtres ont vécu et de comprendre ce qui a fait la société d'aujourd'hui à travers l'histoire des anciens, quoi. Donc on met du corps, en fait, j'ai envie de dire, on parle de squelette en généalogie, donc c'est l'arbre à proprement parler, donc la recherche d'actes d'état civil pour essayer de comprendre qui étaient nos ancêtres et les descendants qui existent autour de notre génération, par exemple, mais aussi de comprendre comment ils ont vécu, ce qu'ils ont pu faire, où ils ont vécu, la ville aussi, l'histoire de la ville où ils ont vécu, etc. Donc plutôt les mœurs et la société. Là, en l'occurrence, donc, le couple sur lequel je travaille, il s'agit d'une famille pour le côté paternel qui était investie plutôt au tribunal de première instance de la ville de Sisteron et par leur branche paternelle qui était notaire dans la ville de Pépin. Donc, ce qui m'a amené à faire des recherches aussi à l'état civil à Sisteron et à Pépin. D'ailleurs, je remercie les maires de ces communes pour leur autorisation de consultation. Il faut savoir que c'est compliqué quand même de faire de la recherche, donc je remercie aussi Monsieur Labadie pour ça, puisqu'on n'est pas toujours censé trouver les ressources seul, quoi. C'est pas évident de mettre tout ça en place, donc c'est important d'avoir le soutien des personnes qui détiennent les sources. Et sur cette ville de Pépin, donc des générations de notaires et aussi donc un maire de Pépin, et je trouve donc dans ma descendance un maire aussi de Sisteron, donc qui a été maire un an seulement, mais qui a été maire quand même, et c'est des personnes, que ce soit dans une commune ou dans l'autre, dont on parle pas. Et voilà, j'espère aussi au travers de mon travail de mémoire réhabiliter certaines personnes, du moins dans la place qu'ils ont eue, puisque là on est sur des familles, par exemple, qui ont une importance au 18e, 19e, puisque ce sont des personnes lettrées qui écrivent beaucoup d'actes de la vie courante et qui font vraiment partie de la vie des gens. Hein. Le notaire, le greffier, c'est vraiment des personnes qui retranscrivent tout ce qui se passe dans la vie des gens et des actes en plus qui nous permettent aujourd'hui de faire de la généalogie. Hein. Beaucoup les archives notariales et... Et aussi, par exemple, dans le cas de tribunaux, les actes du greffe sont très importants pour comprendre certaines enquêtes ou certains jugements.
Eh bien, ça m'a l'air passionnant. Beaucoup de travail, donc, la réalisation de ce mémoire. Vous avez un délai, j'imagine?
Oui, je dois le rendre pour le mois d'août.
D'accord.
Début août, voilà.
Et après votre formation, donc le stage qui se termine aux archives d'ici une semaine?
Oui, voilà. En fait, j'ai encore une semaine, puisqu'après, je fais un second stage dans une étude de généalogie, je réintègre mes fonctions à la commune de Sisteron. L'idée, c'est vraiment d'approfondir mes compétences et peut-être d'avoir de nouvelles pistes de travail dans mon travail et d'exploiter différemment les ressources, puisque Sisteron a la chance d'avoir un fonds d'archives très important et qui mérite d'être exploité, et peut-être que c'est une piste aussi... pour valoriser l'histoire de la ville.
Ben, merci.
Merci à vous pour votre accueil.
Et puis ben, peut-être à bientôt sur notre antenne, qui sait,
avec plaisir.
Pour nous parler de vos recherches. Bonne journée et à bientôt.
Bonne journée à vous tous. Au revoir.